de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Guerre.
La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tous. Aujourd'hui un chef-d'œuvre de la littérature universelle, Les Mille et Une Nuits.
Et lorsque ce fut la première nuit, elle dit: on raconte, sire, au roi bienheureux, qu'il y avait une fois un très riche marchand, qui avait à son service esclaves et serviteurs. Plusieurs épouses lui avaient donné beaucoup d'enfants, et ses affaires s'étendaient à de nombreux pays. Ayant décidé un jour de voyager...
Ans d'histoire. Avec l'Odyssée, le Cantique des Cantiques, la chanson de Roland ou le roman de Renard, Les Mille et Une Nuits font partie des plus anciens monuments de la littérature universelle. Mais si depuis plus de 10 siècles, Sinbad le marin, Aladdin et sa lampe merveilleuse, Ali Baba et les 40 voleurs nous font rêver, on ignore encore qui a imaginé ces Mille et Une Nuits pendant lesquels Scheherazade avait réussi à apaiser la folie d'un roi que sa femme avait trompé. Il s'appelait Shahriar, et pour se venger des femmes, il avait décidé d'épouser chaque nuit une vierge et de la tuer le lendemain.
Le démon lui-même a été trahi. Le rêve m'a appris que toutes les femmes sont perfides.
Non, Altesse, vous avez eu une mauvaise expérience.
Il n'y a qu'une façon de traiter les femmes, il faut les exécuter.
Oui, je suis sûr que nous avons tous eu ce sentiment.
Je me marierai, il y aura un mariage et une nuit de noces, mais au petit matin, je ferai exécuter mon épouse, ainsi je la tuerai avant qu'elle me tue. Choisis-moi une femme du harem, Jafar.
Oui, une personne vive et joyeuse, qui ne se soucie guère de l'avenir.
Et que cela reste secret. À présent, va chercher le bourreau.
Malek Chebel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, spécialiste du monde arabe et de l'islam et auteur d'un livre, Psychanalyse des Mille et Une Nuits. Alors les Mille et Une Nuits, tout le monde en a entendu parler, tout le monde croit les connaître sans forcément les avoir lus, à tel point d'ailleurs que les premiers personnages auxquels on pense quand on parle des Mille et Une Nuits sont des personnages qui ne se trouvent pas, en tout cas dans les versions originales, Aladdin ou Ali Baba, hein, qui ont été rajoutés au récit des Mille et Une Nuits.
Oui, non, mais par définition, les Mille et Nuits sont un cumul d'histoire. Et ça s'étend sur 2 siècles. Donc, au départ, en effet, ces personnages-là sont des personnages tardifs. Mais ils font partie de ce cycle des, je dirais, grand angle des Mille et Une Nuits, dans la mesure où elles sont nées dans une ville et elles ont voyagé pour se retrouver au finish dans une autre ville. Donc, sur le temps, elles ont pris un certain nombre d'histoires, en effet.
Parce qu'effectivement, dans une des versions les plus connues des Mille et Une Nuits, traduite par Jamel Eddin Bencher et André Michel, on ne trouve ni Ali Baba ni Aladdin. On retrouve en revanche Sinbad, hein, qui apparaît après, qui est aussi un des grands personnages. C'est le commerçant arabe. Par définition.
Tout à fait. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas Ali Baba et d'autres personnages de nos contes d'enfants, parce que justement, c'est ça le sel des Mille et Une Nuits. Moi, je trouve que les Mille et Une Nuits sont d'abord un conte populaire, avec sa gouaille, avec sa créativité, son imagination, son espace à lui. Et évidemment, la thèse est que quand elles ont été mises par écrit, ces Mille et Une Nuits, on a perdu un certain nombre d'histoires chemin faisant. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait toutes les histoires.
Alors, le personnage principal, on n'en a pas encore parlé, Malek Chebel, c'est évidemment celle qui apparaît dans le premier récit des nuits, ce qu'on appelle le récit cadre, Scheherazade. Hein, c'est la première histoire qu'on trouve dans l'œuvre, et c'est en fait la sienne. Quel est ce récit cadre? Il faut le rappeler peut-être aussi pour ceux qui s'en souviennent pas.
Oui, très rapidement. D'abord, on sait que ça vient à peu près de l'Inde. Ça vient entre l'Inde et la Perse, etc. Donc, c'est indo-persan au départ. Il s'agit de 2 rois qui ont été trompés tous les deux par leur femme. Et ils partent en voyage pour découvrir le grand espace, la grande nature, leur empire qu'ils connaissaient pas. Et ils se retrouvent devant un lac et ils se reposent là devant ce lac-là. Et tout d'un coup, il y a un djinn monstrueux qui sort de la nuée, qui sort de l'eau et qui veut se reposer aussi tout à côté. Et il avait un coffre et dans ce coffre, une fois qu'il s'est endormi dessus, il y a une fumée qui sort, c'est tout le caractère évidemment fantasmagorique des Mille et Une Nuits, il y a une fumée qui sort, et voilà qu'une jeune demoiselle se constitue à partir de cette fumée. Et la demoiselle sent la présence des deux rois, qui sont au sommet d'un arbre, et elle leur intime l'ordre de descendre pour pouvoir copuler avec eux. De force. Et elle est, donc, elle leur impose.
Ça, c'est pas pour enfants, ça.
Ça, c'est pas pour enfants. Mais on verra que c'est pas tout à fait pour enfants, comme les Mille et Une Nuits. Pour dire vrai. Donc, elle copule avec eux et elle leur demande leurs alliances. Et elle en a 400 comme ça. Donc, ça, elle a eu le temps de copuler avec beaucoup d'hommes auparavant. Après, elle revient dans le coffre et, le djinn se réveille et ils s'en vont. Et les deux rois de tirer une leçon en se disant, mais la femme, jamais au monde, on ne pourra la contenir, on ne pourra être plus intelligent qu'elle, plus rusé qu'elle. Même la femme de djinn arrive, même un djinn, il y a une femme qui arrive toujours à le tromper. Et donc là-dessus, ils reviennent chez eux et ils décident de tuer toutes les femmes vierges avec lesquelles ils vont copuler, avec lesquelles ils vont dormir pour une première nuit. Et à partir de là commence toute l'histoire. Scheherazade apparaît, qui est la fille du grand vizir, celui qui est chargé justement d'alimenter les nuits folles, on pourrait dire, du roi. Et Scheherazade dit, je suis volontaire pour aller voir le roi, donc pour ma première nuit de noces. Et c'est là que la première nuit, elle lui raconte une histoire. Et cette histoire-là, elle l'interrompt avant l'aube. Et le roi, voulant l'entendre, il veut écouter la fin.
Je n'aime pas les histoires.
Un merveilleux conteur d'histoires m'a dit un jour, il faut captiver son auditoire dès le début, autrement, il n'est plus attentif.
C'est mon cas.
C'est parce que je ne vous ai pas encore parlé de Khoda le Noir. À cette époque, le royaume était pillé par des bandes de brigands. Khoda le Noir était à la tête de la plus féroce d'entre elles.
C'est ainsi qu'a commencé donc la première des Mille et Une Nuits de Scheherazade et du roi Shahriar. Pourquoi Mille et Une Nuits, Malek Chebel, et pas Mille et Deux Nuits, ou 2000 Nuits, ou 2001 Nuits?
Ben, je peux vous dire que ça doit être, c'est une convention ancienne. Les Arabes aiment beaucoup ce genre de convention littéraire ou poétique. Mille et une nuits, parce qu'il fallait rajouter une nuit à mille, qui est un chiffre rond. Et donc, ça donne l'idée de la continuité et de la... Mais enfin, on peut aussi calculer autrement. Vous savez, il y a eu beaucoup d'études scientifiques, sociologiques, anthropologiques et même psychanalytiques, comme vous voyez, sur les mille et une nuits. Et on peut évaluer qu'au bout de mille et une nuits, le roi va avoir un enfant, ou deux ou trois, hein. Mais en tout cas, c'est un espace suffisant pour permettre à la femme qui est Scheherazade qui d'accoucher d'un enfant.
Alors, ce qu'à l'extérieur, c'est que ces histoires, tout le monde en a entendu parler, personne ne sait qui les a écrites.
Elles sont anonymes. Ce sont toutes des histoires anonymes, toutes. Anonymes avec une hypothèse. C'est celle que je formule, que ça pourrait être des femmes qui les ont écrites. Pas écrites, mais racontées. Parce qu'au départ, ce sont des histoires orales qu'on a racontées dans des palais. Et je fais l'hypothèse que ce sont des femmes oisives, assez cultivées. Donc ça peut être des courtisanes de Bagdad qui, ayant tout le temps pour se raconter des histoires, vont se raconter ces histoires-là. Et comme vous constaterez, dans les Mille et Nuits, souvent on parle des hommes. Et souvent, ce sont des femmes qui sont, si vous voulez, qui mènent la barque pour aller rapidement. Et donc, à mon avis, ce sont des femmes du palais de Bagdad qui se sont racontées ces histoires-là.
Et pourtant, vous-même, à l'instant, vous venez de le dire, on pense qu'il y a une origine persane ou indienne. D'ailleurs, le roi Shahriar, hein, selon le récit même du début des Mille et Une Nuits, régnait sur les îles de l'Inde et de la Chine.
Oui, mais au départ, si vous voulez, le récit cadre, c'est avec cette histoire que j'ai racontée au début, qui fait que les rois vont être trompés, et quand ils constatent que le djinn est trompé aussi, que même la création divine dans son ensemble est toujours prise de vitesse en quelque sorte par la ruse féminine, et que la femme est mise à mort à cause de cela, donc c'est le récit cadre. Et Scheherazade qui va s'en sortir et finalement sauver le genre féminin grâce à son talent, ça, c'est ce qu'on appelle le récit cadre, et c'est ce récit cadre-là qui est d'origine indo-persane. Mais évidemment, comme vous savez, dans la littérature ancienne, chacun brode sur le canevas, sur la structure du précédent. Et donc, il y a un peu, comment dire, un emprunt, on pourrait dire un emprunt, mais ça c'est un emprunt culturel sur plusieurs siècles quand même.
Et un emprunt fait donc par l'islam. Hein. D'ailleurs, il y a là-dedans, c'est à Bagdad, hein, surtout qu'on commençait à circuler les Mille et Une Nuits du temps de Harun al-Rachid, qui d'ailleurs fait partie des personnages que l'on vrai, lui, hein, réel, contrairement à Scheherazade ou à Sharia. Il y a Harun al-Rachid qui est dans le récit. Bagdad, c'est la grande époque ou le début vraiment des Mille et Une Nuits.
Dixième siècle, 8e Bagdad.
Même, non,
oui, fin, 8e. Non, c'est 9e. 9e, 10e siècle, mais c'est au 10e siècle qu'elle atteint son apogée. Et à mon sens, les Mille et Une Nuits sont du 10e siècle. et pas du 8e et pas du 7e. Et Harun Rachid apparaît il est fin du 8e siècle, début 9e, lui Harun Rachid lui-même. Donc il apparaît dans les milieux comme un personnage jouant son rôle. Ça peut être de son temps. Les premiers contes peuvent être en effet de son temps, du temps de Harun Rachid, une façon de reconnaître sa valeur, une façon qu'il est toujours mis positivement en scène, si vous voulez, et il n'est jamais égratigné. Et donc ça continue par la suite. Donc 10e siècle, la dynastie abbasside, la deuxième de l'islam, l'une des plus brillantes qui pouvait accepter ce genre de conte plutôt coquin.
Et puis alors, ensuite, les mille et une nuits voyages, elles vont également connaître un essor considérable. Je crois même que c'est là, on dit que c'est là que le nom des mille et une nuits a été donné, justement à cet ensemble de récits qui sont ajoutés les uns et les autres. C'est en Égypte.
C'est en Égypte et c'est même plus tard. Je dirais qu'en Égypte, il y a eu ce qu'on appelle les contes de voyageurs, les contes de commerçants, les contes masculins. Moi, je dirais les contes féminins sont de Bagdad, les contes masculins sont d'Égypte. En effet, une femme ne peut pas raconter les histoires de Sindbad le marin. Mmh. Il faut être un homme ayant vécu un tant soit peu dans les mers chaudes de l'océan Indien pour pouvoir raconter les histoires de Sindbad le marin, d'autant que, selon certains historiens, Sindbad le marin aurait véritablement existé, lui, en revanche, contrairement à d'autres, et hormis évidemment Harun Rachid, du côté du sultanat d'Oman. Il y a même un village où on croit savoir qu'il est parti de là, il y a même sa maison, et il serait donc omané.
Alors donc, ça, il fait partie, comme d'autres, de ces histoires des mille et une nuits pendant lesquelles donc Scheherazade parvient à sauver sa tête, d'abord parce qu'elle captive le roi par ses talents de conteuse, mais aussi et surtout parce qu'elle le laisse tous les soirs sur sa faim en arrêtant l'histoire qu'elle raconte avant son dénouement.
C'est ainsi que le maléfique Khoda le Noir franchit les portes de la ville.
Oh. Que se passe-t-il ?
Rien, Altesse.
Qu'est-ce qui est arrivé à Ali et à Morgiane? Que s'est-il passé ensuite? Est-ce que Khoda le Noir les a tués? Vous ne savez pas?
Oh, si, bien sûr. Mais je suis lasse. Il fait jour, regardez.
Alors, vous ne voulez pas continuer?
Si, mais les histoires se racontent mieux la nuit, Altesse. En tout cas pour moi. Je pense qu'il est difficile de créer une atmosphère à la lumière du soleil. N'est-ce pas votre avis?
Il est à deux fois.
Mille ans d'histoire, aujourd'hui les mille et une nuits.
Et c'était Sappho, Scheherazade, une belle chanson, une belle façon de voir aussi les mille et une nuits, Malek Chebel. Vous me disiez que, parce qu'il y a des mots arabes qu'on a encore.
Oui, magnifique. J'aime beaucoup l'entrée en matière, si vous voulez. Kenya Meken Fimeddins Bardad. Il était une fois en la ville de Bagdad. Et c'est comme ça que toutes nos histoires, toutes nos grands-mères nous ont raconté des histoires quand on était petits.
Bon, c'est comme ça que toutes les grands-mères du monde le font d'ailleurs, hein, Malek Chebel. Alors, Scheherazade quand même. C'est pas du tout, cette femme, c'est pas du tout l'idée, elle est pas du tout conforme à l'idée que l'on se fait en Occident de la place de la femme dans la société musulmane. C'est une femme de pouvoir.
Alors, plus que ça, moi je trouve que c'est une énigme en elle-même, quelque part. Parce que nous avons là une femme paradoxale. C'est une femme brillante, puissante, elle est de la grande société et elle sait connaître la psychologie suffisamment, la psychologie masculine, pour pouvoir en jouer avec un brio extraordinaire. Et nous avons là la vision, si vous voulez, transformée de la femme en islam au temps où l'islam était un porteur de civilisation. Évidemment, Shahrazad toute seule aujourd'hui en Afghanistan, ça marcherait pas. Mais à Bagdad, c'était possible. La femme avait un pouvoir, elle pouvait hériter, elle était dépositaire de science, de pouvoir, de connaissance, elle participait aux décisions, et nous avons cette concentration dans le personnage de Shahrazad.
Et elle exerçait un pouvoir, d'après le livre, sur un roi fou. C'était quand même assez audacieux d'écrire ça ou de le raconter, parce qu'au début c'était des récits, c'était purement oral, ça n'a été écrit que plus tard, Les Mille et Une Nuits, mais c'est quand même très audacieux.
Moi je trouve que 10 siècles avant, parce que ça a été écrit autour du 9e-10e siècle, dans les premières histoires, je trouve que cela démontre quand même du progrès que la société abbasside avait fait à l'époque, notamment dans les relations interpersonnelles, et notamment entre harem et sérail, si vous voulez. Le harem étant le lieu où se trouvaient les femmes, et le sérail, c'est le lieu du pouvoir, le lieu où se trouvaient les hommes. Et dans la négociation entre harem et sérail, nous avons un cas de figure qui est celui des Mille et Une Nuits, et de Shahrazad en particulier, où il y a interpénétration des deux mondes avec une autorité réelle de la femme. La femme n'est pas une potiche, la femme a du pouvoir, la femme a des connaissances et elle les montre et elle se met elle-même en application, si vous voulez. Et ça, c'est merveilleux.
On est à milieu, en tout cas, de ce que l'islam intégriste, extrémiste, dit de la femme. Et comment est-ce que ça a été d'ailleurs accueilli à l'époque? Et même maintenant, je constate, j'ai appris qu'en 85, par exemple, on avait interdit en Égypte une version libanaise des Mille et Une Nuits.
Oui, enfin, c'est-à-dire que nous connaissons si mal l'islam d'ici, ouais. Et du haut de notre début de troisième millénaire, nous le connaissons si mal. Et c'est pourquoi que, vu les images, violentes que nous avons, évidemment, ça cache beaucoup la subtilité de cette religion et de cette culture. Et concernant les femmes, nous avons beaucoup de choses à apprendre aussi sur le sort des femmes. Aujourd'hui, il n'est pas enviable. Mais il y a eu des siècles et des siècles, et c'est plusieurs siècles à la suite, les femmes avaient vécu des histoires véritablement merveilleuses. Et pour ce qui est des Mille et Une Nuits, sont-elles encore lues ou pas lues? Elles sont encore lues pour certaines histoires. Elles sont évidemment, par le clergé d'Égypte, interdites et brûlées. La version dont vous parlez, qui est la version non expurgée, qui est éditée à Beyrouth, c'est une version, la version que j'ai à la maison, c'est une version assez coquine, où ça parle de sexualité, ça parle d'amour, et c'est vrai que ça, pour les théologiens réactionnaires du Caire, évidemment, ça passe pas.
On y reviendra, Malek Chebel. Mais alors, bon, Les Mille et Une Nuits, pour devenir une œuvre universelle, il a bien fallu qu'elle sorte un peu du monde musulman. Et ça se passe au XVIIIe siècle. C'est un Français qui est à l'origine de la première traduction occidentale des Mille et Une Nuits, qui s'appelait Antoine Galland. Et ça a eu un succès fou immédiatement. Comment expliquer ce succès à cette époque-là, au XVIIIe siècle, ce succès des Mille et Une Nuits en France et puis dans le reste de l'Europe?
Mais nous sommes dans un siècle où l'Orient fascinait l'Occident. C'est l'époque des peintres orientalistes, des voyageurs qui sont partis en Orient. On nous a décrit des choses tellement magnifiques et merveilleuses en Orient que tout le monde voulait y aller. Et Antoine Galland a fait ça sous forme de feuilleton. Et quand il y a eu un début de succès, l'histoire raconte que les gens venaient, quand ils devaient interrompre pour une raison ou une autre son feuilleton, ils venaient au bas de sa fenêtre et ils criaient pour que Antoine Galland puisse reprendre sa plume. Oui, oui. Pour que Antoine Galland reprenne sa plume. Vous imaginez, c'est pratiquement une star mondiale, quoi, à l'époque, Galland, parce qu'il faisait rêver les gens, et les gens venaient au bas de sa fenêtre pour qu'il puisse, le cas échéant, s'il avait un rhume, s'il était fatigué, de reprendre sa plume pour leur raconter les épisodes à venir. Et finalement, l'histoire de Galland est une histoire magnifique parce qu'elle est très littéraire et belle de bout en bout. Il y a une sorte de beauté, de grâce qu'il y a dans cette édition que j'aime beaucoup.
Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres écrivains européens. Goethe, je crois, était passionné. Proust, je crois, avait fait des Mille et Une Nuits, son livre de chevet.
Alors là, Proust, l'histoire de Proust est très intéressante parce que Proust était gamin. et il ouvrait une version des Mille et Une Nuits, je suppose, non expurgée. Et sa mère, le voyant, elle prend le livre et elle le referme aussitôt et elle le cache à sa vue. Et il raconte plus tard que c'était un livre non expurgé qui avait beaucoup, un peu de sexualité dedans et que sa mère lui a proposé sans doute la version de Galant qui, elle, expurgée justement.
Alors ça a aussi inspiré évidemment des œuvres littéraires, mais aussi au cinéma, hein, le film de Pasolini qui reprend entre autres un des contes les plus salaces des Mille et Une Nuits, Le Portefeuille et les Dames, ou l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve dans une maison de Bagdad au milieu de trois femmes qui lui montrent la partie la plus secrète de leur anatomie.
Petit, approche, viens là. Observe bien et ne te trompe pas. Comment ça s'appelle, ça? Tu te trompes.
Bon, alors, dis-moi comment ça s'appelle.
Ça s'appelle l'herbe odorante des champs.
Alors, béni soit l'herbe odorante des champs.
Dis-moi, et ça, comment ça s'appelle? Observe bien et ne te trompe pas. Ça s'appelle la grenade fendue. Alors, dis-moi, comment ça s'appelle, ça?
La grenade fondue?
Idiot! C'est pas ça!
Mais alors, comment ça peut s'appeler?
Ça s'appelle l'auberge du bon accueil!
Ah oui? Alors, comment s'appelle ceci? Ça s'appelle le poulain qui broute l'herbe odorante des champs, qui mange la grenade fondue et qui passe la nuit dans l'auberge du bon accueil!
C'était un extrait des Mille et Une Nuits de Pasolini, hein, les Mille et Une Nuits qui ne sont pas que des contes pour enfants. La revue de texte de la Scheherazade de 2000 ans d'histoire, Stéphanie Duncan.
Essayez de maintenir la pression. Alors, dans votre livre, Malek Chebel, vous dites que même que les Mille et Une Nuits sont une initiation à l'acte sexuel, un hymne à l'amour adressé par les femmes aux hommes pour préparer leurs amants à la richesse de leur sexualité et de leur imagination. Hein, tout un programme. Alors, en effet, dans un des contes, l'histoire de la docte Sympathie, l'héroïne déclare sans hésiter et avec beaucoup de simplicité. La copulation est une chose excellente. Nombreux sont ses bienfaits et ses vertus. La copulation allège le corps et soulage l'esprit. Éloigne la mélancolie, attire l'amour, contente le cœur, console de l'absence et fait recouvrer le sommeil perdu. Voilà. En liberté de ton qui sans doute choquera les traducteurs occidentaux, l'un d'eux au XVIIIe siècle déclare en préambule à son lecteur « Il y a des contes si licencieux que la bienséance ne m'a pas permis d'en donner la traduction. Si les mœurs des orientaux peuvent les souffrir, la pureté des nôtres saurait s'en accommoder. » Alors, il faut dire que dès le premier conte, les Mille et Une Nuits donnent le ton. Il commence par une gigantesque orgie, allez, allons-y, dans le palais du roi Shahriar. La porte s'ouvrit et en sortirent 20 esclaves femmes et 20 esclaves hommes. La femme du roi se promenait au milieu d'eux dans toute son éclatante beauté. Arrivés autour du bassin, ils se dévêtirent tous et la reine cria alors un nom, Massoud. Un esclave noir sauta d'un arbre et la rejoignit. Il lui mit les jambes en l'air, se glissa entre ses cuisses et la posséda. À ce signal, tous les esclaves firent de même avec les autres femmes. Ils ne cessèrent de se donner des baisers, de s'enlacer, de se prendre et de se reprendre jusqu'à l'approche du jour. Alors, il y a donc des femmes, des personnages de femmes expertes, hein, mais dans les Mille et Une Nuits, même les jeunes filles vierges sont pleines de curiosité et d'imagination. Celle-ci, vous allez voir, n'a rien d'une oie blanche. Alors, ne pouvant plus résister à la flamme allumée en elle pour la première fois, elle se mit à fureter entre les cuisses du jeune homme. Alors, comme par hasard, elle rencontre en route un objet si nouveau pour elle qu'elle considéra avec de grands yeux et constata que sous sa main, il changeait de forme à chaque instant. Elle fut d'abord effrayée, mais comprit sans retard son usage particulier. Car de même que le désir chez les femmes est de beaucoup plus intense que chez les hommes, de même leur intelligence est infiniment plus prompte à saisir les rapports des organes charmants. Elle le prit donc à pleine main, et tandis qu'elle embrassait les lèvres du jeune homme avec ardeur, il arriva ce qui arriva.
Malek Chebel, dites-moi, il y a quand même pas que on est loin d'Ali Baba et d'Aladin, quand même. Hein.
Et des 40 voleurs, donc de toute façon.
C'est pas des contes pour enfants.
C'est pas des contes pour enfants. Moi, je dis que au mieux, c'est des contes pour les enfants qui sommeillent en nous les adultes. Je pense que les Mille et Une Nuits peuvent être des contes pour enfants. Peut-être, moi, je mettrais l'âge entre 13 et 18 ans. C'est des contes d'initiation, aussi bien aux affaires de l'amour, à la séduction, à la tendresse, mais également, c'est une initiation à la vie, initiation aux rapports humains, initiation à plein d'autres choses. Il y a Tawuddud, un personnage très important dans les Mille et Une Nuits, qui est un personnage savant, initiation donc ouverte ouverture au monde, curiosité, indépendance, affirmation du sujet.
Puis initiation aussi à l'histoire de l'islam que l'on retrouve tout au long des mille et une nuits, y compris d'ailleurs les croisades que l'on trouve également dans les mille et une nuits, le commerce évidemment avec Sindbad. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une morale aux mille et une nuits comme il y a une morale par exemple aux fables de La Fontaine, Malek Chebel?
Moi je trouve qu'il y a une très grande morale dans les mille et une nuits. Pas évidemment une morale moralisante. C'est une morale de la vie. Les mille et une nuits sont une invitation au voyage, une invitation au savoir, à la connaissance, une invitation à l'écoute. Vous imaginez, c'est un roi fou qui se met à écouter une femme qui vaut rien à l'époque, qui valait rien en tout cas dans notre perception, et qui tout d'un coup, grâce à la force, à la magie des mots, il se met à l'écouter. C'est quand même une grande leçon de sagesse. Ensuite, on a plein de choses autour des connaissances, sciences naturelles, anatomie, sexualité, on a évidemment les fruits, on a les animaux, il y a beaucoup d'animaux dans les minutes, donc il y a une connaissance du monde, une connaissance naturaliste qui est très très présente, et peut-être à la limite, peut-être le discours en creux qui est le plus fort.
Merci Malek Chebel. Justement, il y a, pour conclure, je crois qu'on peut simplement recommander à ceux qui nous écoutent la lecture des Mille et une nuits, notamment la traduction de Jamaleddin Bencher et André Michel, qui a été publiée chez Folio Classique, et puis alors aussi votre livre, dont je rappelle le titre, Psychanalyse des Mille et une nuits, où vous passez en revue donc tous les grands thèmes de cette œuvre, un livre qui a été édité chez Payot. Également chez Payot, vous avez écrit, Malek Chebel, Encyclopédie de l'amour en islam et Traité du raffinement. À lire également les Cette porte des mille et une nuits, un livre richement illustré d'Edouard Brasset, sorti aux éditions du Chêne. Enfin, l'islam et sa civilisation d'André Michel, publié chez Armand Collin. Vous avez pu entendre des extraits d'un téléfilm diffusé sur France 2, Les Mille et Une Nuits de Steve Baron, et puis du film de Pasolini, donc Les Mille et Une Nuits, qui est sorti chez Warner Home Video. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com, un site où nous recevons beaucoup de courriers. Merci pour vos encouragements, merci aussi pour vos remarques, comme celles que nous avons reçues à la suite d'une erreur dans l'émission de vendredi dernier. L'inventeur de l'espéranto, Zamenhof, était en effet polonais et non pas allemand, comme il a été dit dans l'émission. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Daligo et Antoine Viossa, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans notre émission, l'histoire d'une compagnie aérienne devenue il y a quelques jours la première du monde, Air France.